cette semaine, Xavier Delaporte rencontre Christophe André. Ce soir, Freud, le rugby et l'accident.
Bonsoir Christophe André.
Bonsoir.
Merci de nous accueillir chez vous pour cette série d'entretiens. On est tout près du bois de Vincennes, à quelques kilomètres de Paris. Alors, vous êtes psychiatre, vous officiez à l'hôpital Sainte-Anne à Paris, mais vous êtes peut-être plus connu pour la vingtaine d'ouvrages que vous avez écrits et publiés qui traitent, je le dis comme ça rapidement, de l'estime de soi, du bonheur, de la méditation. On a pu vous entendre à France Culture parler de méditation. Alors avec vous, toute cette semaine, on va évoquer votre travail, on va évoquer vos livres. Mais avant même en venant, je me posais juste une question. Vous êtes à l'aise avec ce type de dispositif qui est de devoir parler pendant 2h30 et répondre aux questions de quelqu'un?
Avoir des micros sous le nez, ça ne me dérange pas. Ce qui me met un peu plus mal à l'aise parfois, c'est de parler de moi, d'imaginer que tout va tourner autour de mon petit nombril. Ça, c'est un peu plus embarrassant, même si je suis ravi de discuter avec vous, même si c'est l'occasion de réfléchir à ce qu'a pu être ma vie, notamment ma vie professionnelle, même si je sais aussi que parfois parler de soi peut aider les autres.
Parce que vous ne rechignez pas à parler de vous dans vos livres, et même vous le dites dans votre pratique.
Non, je ne rechigne pas, mais c'est calculé. C'est-à-dire, je suis plutôt un taiseux, globalement. Je n'adore pas me mettre en avant, mais avec le temps, j'ai compris que ce qu'on appelle la révélation de soi, la révélation de soi, notamment lorsqu'on est soignant ou thérapeute, qui consiste à parler de soi à certains moments, évidemment, pas tout le temps, et dans des instants où on pense que ça va servir l'autre, et non pas pour se faire du bien à soi, eh bien cette révélation de soi, elle est aidante, elle fait du bien, qu'il s'agisse de lecteurs, lorsqu'il, au détour d'une page, il tombe sur une petite confidence, des états d'âme de l'auteur, ou bien qu'il s'agisse de patients, lorsque parfois en consultation, on leur dit un petit truc perso pour les réconforter, pour les déculpabiliser. Donc finalement, c'est une démarche plus intellectuelle que spontanée.
Alors vous êtes né au milieu des années 50, vous êtes né à Montpellier, vous avez grandi à Toulouse. C'était quoi votre milieu familial, Christophe André?
Alors c'était un milieu familial très modeste. Mes parents, eux, étaient issus de milieux alors vraiment pauvres pour le coup. J'ai souvenir de ce qu'ils nous racontaient lorsque nous étions gamins, puis même maintenant ma mère qui est âgée me reparle énormément de cette enfance terrible qui a été la sienne. Une enfance misérable où il n'y avait pas de choses à manger, où son père était mort, donc il n'y avait pas d'homme à la maison. Les hommes de passage parfois allaient voler de la nourriture pour nourrir la famille. Enfin bref, voilà, c'était des histoires assez tristes qu'elle a pu vivre. Et mon père en parlait moins volontiers, mais c'était la même chose, quoi. Des familles, il était issu d'une famille bretonne vraiment pauvre, orphelin de père très tôt, ne pouvant pas finir ses études, s'engageant dans la marine marchande à 14 ans, juste après son certificat d'études. Et même s'ils ont tout fait pour nous éviter, justement, ces difficultés qui avaient été les leurs, donc la conclusion, vous l'imaginez, surtout dans ces années 50, début des années 60, qui offrait beaucoup d'espace à l'ascenseur social, là, qui semble en panne aujourd'hui, c'est que tout le monde travaillait très dur. Mes parents travaillaient très dur, et ils ont réussi d'ailleurs à sortir de leurs conditions de pauvreté et à nous assurer une vie décente, assez confortable finalement, où mon frère et moi ne manquions pas de nourriture, de livres, de vêtements, mais voilà, on n'était pas une famille bourgeoise.
Rien ne vous prédisposait à faire des études longues, intellectuelles, ou quand même quelque chose qui était de l'ordre justement de cette croyance qu'il y avait mieux?
Si, certainement que la volonté de mes parents était que nous échappions à la condition qui avait été la leur. Et donc, ils nous poussaient beaucoup pour que nous travaillions bien à l'école. Moi, j'étais un très bon élève, mais pas par talent ou pas par goût. Enfin, si, quoique, j'aime bien apprendre, mais aussi parce que je sentais qu'on ne rigolait pas avec ça, quoi. Qu'il fallait ne pas décevoir mes parents, ne pas leur compliquer la vie matériellement, en redoublant, en ne foutant rien. Donc, je travaillais beaucoup.
Vous lisiez, vous...
J'adorais la lecture. Ma mère m'avait appris à lire très tôt. Je devais savoir lire à la fin de la maternelle, quand je suis rentré au CP, je savais déjà lire, donc on m'a fait sauter une classe, puisque ça se faisait facilement à l'époque. C'était pas forcément un cadeau d'ailleurs, mais bref. Et donc, ouais, j'adorais la lecture, et c'est drôle parce que c'était vraiment, maintenant que vous m'en parlez, une obsession de mes parents. Donc ma mère voulait absolument qu'on sache lire et qu'on lise beaucoup, et mon père encore plus, alors que lui ne lisait pratiquement pas. Il lisait le journal et encore, ça, je crois que ça l'emmerdait un peu de lire, mais nous avions un budget livre illimité. Et je me souviens d'ailleurs très bien, je crois que c'était sûrement mon anniversaire des 5 ou 6 ans, j'étais vraiment tout petit, c'est un de mes plus vieux souvenirs. Le jour de mon anniversaire, il m'a offert 2 livres de la Bibliothèque Rose, dont un qui était « Oui, oui » et « La voiture jaune ». Et j'étais furieux, quoi. Je me disais, mais pourquoi il m'offre des livres? Moi, je veux des pistolets, je veux des jouets. Et j'étais pas du tout content. Hein. J'ai dû dire merci, mais bon, à l'époque, pas comme aujourd'hui, on avait un peu peur des parents, on les respectait beaucoup, donc j'ai pas dû exprimer mon désappointement, mais il était grand, j'ai dû mettre quelques semaines avant de me pencher dans les livres. C'était des vrais livres, quoi. C'était pas des livres pour bébés. Il y avait des pages entières, sans dessin. Alors, de temps en temps, il y avait un dessin. C'est quand même la Bibliothèque Rose, mais c'était des vrais livres, quoi. C'était le premier vrai livre qu'on me forçait à lire. Et puis, je suis tombé dedans un jour où je devais m'ennuyer. Je me suis décidé à le lire. Évidemment, là, ça a été le début d'une espèce d'histoire d'amour incroyable avec les bouquins, mais qui a commencé par cette déception. Et ensuite, c'est vrai que mon père avait quand même cette énorme vertu, qualité, générosité de remplir la maison de livres. Il souhaitait que nous lisions, donc il achetait beaucoup de livres qu'il n'ouvrait même pas lui-même. Donc il y avait de tout, hein. C'était des livres qu'on pouvait acheter quand on n'avait pas soi-même une grande habitude des livres. Donc il y avait beaucoup d'encyclopédies, de romans abrégés, ça se faisait à l'époque, il y avait un truc qui s'appelait Sélection des Reader's Digest, qui était des romans résumés, alors il y avait 4 romans dans un seul volume, mais qu'est-ce que j'ai pu en lire de ces trucs-là? Et puis peu à peu, je me suis mis à lire des vrais livres, alors après avec l'influence du collège, de l'école même, l'école, le collège, le lycée, enfin voilà, donc c'est vrai que c'est quelque chose de très fort s'est passé à ce moment-là, qui avait pour ressort le désir d'ascension sociale, mais qui a déclenché une histoire d'amour.
Est-ce que ça vous sert, la littérature?
Ouais. Ouais.
À quoi ça vous sert?
D'abord, c'est un plaisir, hein, comme pour tout le monde. J'ai beaucoup de plaisir à me laisser embarquer dans des histoires, lorsque je lis de la fiction, à être touché par la beauté de la forme lorsque je lis de la poésie, et puis apprendre. Moi, j'aime bien remplir mon cerveau de nouvelles connaissances, de nouveaux concepts, donc je lis aussi de l'histoire, de la philo, et donc c'est un plaisir, et je pense que ça a aussi affûté chez moi tout un tas d'intérêts pour le genre humain, finalement.
C'est à ça que je pensais, évidemment. C'est un merveilleux répertoire d'exemples. Et d'ailleurs, dans vos livres, vous citez pas presque autant de cas que d'exemples littéraires. Mais enfin, la présence des exemples littéraires est très étonnante.
Ouais, c'est vrai. Mais ça, c'est drôle. Hein. C'est les choses dont on s'aperçoit après coup. Mais je crois qu'au début, je cherchais dans ces exemples littéraires dont je me servais pour valider mes propos, un peu la même chose que dans mes références scientifiques. Ce qui caractérise mes bouquins, et à l'époque, je pense qu'on n'était pas nombreux à faire ça, c'est que ce sont des livres de psychologie, donc, qui cherchent à étayer leurs propos. Moi, je ne suis pas assez gonflé pour dire « voilà ce que je pense » et gober ça, quoi, et puis sans me justifier, sans donner de preuves. Donc, dans tous mes bouquins, je m'adosse évidemment aux études scientifiques que j'ai pu lire. Je dis, voilà, je pense ça parce que il y a plein d'études où on a conduit telle et telle étude, mais je m'adosse aussi aux études littéraires. C'est pas la même démarche, mais aux œuvres littéraires, parce que je pense qu'il y a quand même un savoir, une finesse, une intelligence, une science, finalement, si on veut bien élargir le sens du mot science, des littérateurs, des poètes, des romanciers, à propos de la psychologie, qui est considérable. C'est Freud, d'ailleurs, qu'un jour je suis tombé sur une citation de Freud, mais c'est Freud qui a dit ça en premier. Il avait dit un truc du genre « Partout où je suis allé, un poète était passé avant moi. Tout ce que j'ai trouvé, finalement, avait déjà été exploré par la poésie, la littérature, mais n'avait pas été démontré. Alors, on s'est aperçu avec le temps et le recul que Freud non plus n'avait rien démontré, mais il avait quand même bien exploré et bien balisé le terrain.
Alors, puisque vous parlez de Freud, la lecture de Freud arrive quand chez vous ?
Terminale. Comme toute une génération de lycéens, et je pense que ça dure encore aujourd'hui, puisque mes propres filles, lorsqu'elles étaient en terminale, ont étudié Freud. Alors ça va très vite, hein, ça doit durer 2-3 cours, je m'en souviens même plus. Je me souviens même plus de la tête de mon prof de philo, d'ailleurs. Mais je me souviens de cette espèce de choc face au premier texte de Freud qu'on a eu à étudier. Instantanément, je rentre chez moi, puis je demande de l'argent à mon père, toujours, en lui disant « Papa, il faut que je m'achète des bouquins, là j'ai un écrivain génial dont nous a parlé le prof de philo, donc je vais m'acheter un livre de Freud, j'ai dû commencer par m'acheter l'introduction à la psychanalyse, et puis là, voilà, en deux nuits c'était plié, j'étais fasciné par l'intelligence de ce bonhomme, sa clairvoyance, son style aussi. Freud est un excellent écrivain. Peu de gens sont conscients de ça, sans doute parce qu'on le lit en traduction et donc on a du mal à peser. Mais le seul prix d'ailleurs que Freud a eu dans sa vie, alors qu'il aurait rêvé d'avoir un prix Nobel ou d'autres prix scientifiques, il n'a jamais eu tout ça parce qu'on se méfiait beaucoup de lui à l'époque quand même. La psychanalyse était encore sulfureuse. Et il a eu le prix Goethe, qui est le prix, l'équivalent, je ne sais pas à quoi le comparer, du prix Goncourt ou du prix de l'Académie française, qui récompense un grand écrivain de langue allemande. Et donc voilà, moi je suis tombé sous le charme de Freud et de la psychanalyse. Et ça a décidé de ma vocation, puisqu'à l'époque, lorsque j'étais lycéen, mes parents avaient, pour être sûr que j'ai les meilleurs profs, des classes à petits effectifs, mes parents m'avaient fait faire allemand, latin et grec.
Ah oui, la totale.
La totale pour, voilà, alors le truc qui m'a, j'étais un peu furieux, parce qu'évidemment tous mes copains parlaient anglais, espagnol, on pouvait voyager avec l'anglais et l'espagnol, bon, allemand, latin, grec. Alors j'ai beaucoup voyagé en Allemagne, du coup j'ai gardé un amour important pour la langue allemande, pour la culture allemande. Bon, le latin et le grec m'ont beaucoup servi aussi, et je les aime beaucoup. Donc finalement, merci à mes parents de m'avoir fait faire ça, mais c'est comme oui-oui et la voiture jaune, quoi. Pendant longtemps, j'étais pas ravi de tout ça.
Et immédiatement, vous vous êtes dit que vous iriez vers une carrière qui toucherait à la psychiatrie, la psychanalyse, la psychologie, je sais pas, dans ce champ-là?
Ouais, ben après la lecture de Freud, parce qu'avant, comme je vous disais, j'étais un bon élève de section scientifique. J'avais fait allemand, latin, grec, et puis les sections scientifiques qui s'appelaient C à l'époque et non pas S comme aujourd'hui. Et donc dans ces sections scientifiques, là aussi, moi ça me passionnait pas, hein, les maths et la physique, mais je faisais le job, donc ça allait. Et les profs poussaient les garçons à être ingénieurs. C'était l'époque des premières missions sur la Lune, de Concorde, et on était tous désireux d'être ingénieur, de participer à cette grande aventure sociale, du progrès technique. Bon, même si au fond de moi, ça m'excitait moyennement, j'étais abonné à Science et Vie, tous ces machins, mais non, c'est vrai que cette rencontre avec Freud m'a libéré, finalement. Là aussi, avec le recul, je m'aperçois que ça a été comme une sorte de grand soulagement d'aller vers quelque chose qui me plaisait très profondément, alors que j'aurais été un ingénieur banal et avec une vie qui m'aurait sans doute moins intéressé. C'est parce que j'ai rencontré ce bon vieux Sigmund que j'ai pu sortir des rails.
Alors, grandir à Toulouse, ça veut dire jouer au rugby ?
Ouais, forcément. Ou en tout cas, se poser la question.
Ne pas jouer, ce qui est aussi grave que de jouer.
Oui, c'est une décision grave, hein, de ne pas jouer au rugby. Et du coup, on n'est pas un sous-homme, il ne faut pas aller jusque-là, mais bon, on n'est pas
donc,
comme
donc
les
vous
autres.
Avez joué, j'en déduis.
Ah oui, bien sûr, oui, bah, dès le collège, oui, je jouais.
C'est... Quel poste ?
Alors, j'ai commencé à jouer trois quarts centre. C'est un
vous
poste.
Êtes grand et fin ?
Ouais, je courais suffisamment vite. Et puis après, je suis passé dans ce qu'on appelle le paquet d'avant, hein, les rugbymen qui sautent en touche, qui poussent en mêlée, donc je jouais troisième ligne, et puis en vieillissant, je courais de moins en moins vite, j'ai fini en seconde ligne, où il fallait beaucoup pousser, beaucoup plaquer, beaucoup se bagarrer, voilà.
Vous donc, aimez ça ?
Beaucoup.
Ah, ouais. Ah bon ?
Ah, j'adore le rugby, j'adore...
Mais non, mais vous bagarrez, plaquez...
Ma foi, oui.
C'est bizarre.
Ouais, allez, c'est drôle hein, comment les gens sont étonnés de voir que j'ai pu aimer me bagarrer, distribuer des nions, recevoir, plaquer. Ah ouais. Oui, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le rugby, c'est un sport collectif et c'est sans doute le plus collectif des sports collectifs. C'est le sport dans lequel, sans l'amour, l'affection, la solidarité de vos copains, ça se passe très mal, quoi. Quand vous êtes la tête sous la mêlée, à côté des crampons des adversaires, avec les bras coincés en arrière, et que vos copains ne viennent pas à votre aide, ça, vous avez des soucis à vous faire. Donc, ce côté...
Vous allez nous faire croire que c'est par goût du collectif que vous aimiez donner des nions.
Non, mais les nions, je donne... Alors, au rugby, il y a deux sortes de donneurs de nions. Hein. Il y a ceux qui sont les méchants, qui aiment ça. Donc, il y en a beaucoup hein, quand même. Et c'est pour ça que j'ai arrêté de jouer au rugby dans les équipes de petits villages où je jouais jusqu'à mon bac et où j'ai fait ensuite du rugby universitaire. Oui. Parce que dans les petites équipes, il y avait des vrais méchants qui étaient des types malsains, qui aimaient faire mal, surtout aux petits jeunes à cheveux longs. Bon, bref. Donc, il y a ceux qui font ça par vice, on pourrait dire. Et puis, après, il y a les nions que vous donnez, d'abord pour vous défendre, pour ne pas vous laisser faire. Ensuite, parce que un type triche sans arrêt, met sa main sans arrêt là où il ne devrait pas la mettre. Donc, bon, on lui rappelle qu'il faut respecter la règle. Si l'arbitre ne lui fait pas respecter, on fait la loi. Bon, c'est le folklore, hein, c'est le folklore du rugby. Mais oui, j'aimais ça. J'aimais cet esprit de corps, cet affrontement physique avec les adversaires. J'aimais la peur qu'on avait quand on rentrait sur le terrain, qu'on voyait les cocos d'en face, les hésitations qu'on avait parfois à se jeter pour plaquer un type qui pesait 30 kilos de plus. Moi, j'ai plusieurs flashs comme ça d'images où voilà, on voyait le bonhomme avancer, prêt à tout défoncer sur son passage. Et il fallait qu'il y en ait un qui se jette dans ses pattes. Ouais, j'ai beaucoup aimé ça.
Et en cessant de jouer au rugby, ça, vous l'avez investi dans quoi, tout ça?
Alors, quand j'ai arrêté de jouer au rugby, c'était en région parisienne. Hein. C'est en arrivant à Paris. Oui, j'étais déjà assez âgé, je devais avoir 35 ans, un truc comme ça. Ça a été un vrai deuil, déjà. Moi, j'ai jamais été impressionné par les dates anniversaires. Le fait d'avoir 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, ça m'a absolument pas marqué. Par contre, ce qui m'a marqué, ce sont les dates d'évolution de mon corps. Le moment où j'ai commencé à perdre mes cheveux, le moment où j'ai dû arrêter de jouer au rugby parce que la carcasse ne suivait plus. Je voyais bien que là, quand je prenais des gros plaquages latéraux par des joueurs plus jeunes, je me demandais ce que je foutais là. J'avais peur de me casser. Et je me souviens de dernier plaquage désintégrant que j'ai reçu. C'était un match, je crois, au nord de Paris, à Montmorency, je ne sais plus trop où. Et là, en me relevant, j'étais désintégré. Mais vraiment, le type m'avait foudroyé. Et là, je me suis dit, il faut que tu arrêtes. Enfin, sinon, tu vas te casser de partout. Ça, c'était un vrai deuil. Oui, alors, où l'ai-je réinvesti? Je crois que je n'ai pas réinvesti ce goût de la bagarre. En fait, je n'aime pas la violence, je n'aime pas la dispute, je n'aime pas les conflits. Je l'ai retrouvé ça quelques années plus tard, lorsqu'il y a eu ce qu'on appelait à l'époque la guerre des psys, quand il y a eu un conflit important avec la communauté des psychanalystes à propos d'un rapport INSERM sur l'efficacité des psychothérapies. Et là, bon, il a fallu s'expliquer un peu, quoi. Donc, je suis un peu monté au créneau, j'ai fait ma part de boulot, mais j'ai pas voulu m'associer totalement à certains échanges un peu violents qu'il y a eu, venant des deux camps, d'ailleurs. Hein, à mon avis, les plus violents se comptaient plutôt parmi les psychanalystes que parmi les comportementalistes, mais ça m'a beaucoup déplu, quoi, d'être obligé de faire ma part de boulot dans cette histoire.
Alors, on va sauter quelques étapes, mais pour y revenir par la suite. Mais vous avez donc passé votre internat à Toulouse. C'était en 1980. Vous avez fait un mémoire de psychiatrie en 1982. C'était sur quoi?
Alors, ma mémoire de psychiatrie, c'était sur l'astrologie.
Ah bon?
Ouais. À l'époque, j'étais passionné d'astrologie pour plein de raisons, mais pour des raisons. Bon allez, il y en avait au moins deux. D'abord, il y avait une raison peu avouable, mais je peux bien vous le dire, c'est que l'astrologie, c'est génial pour draguer les filles. C'est fantastique. Ah ouais. Vous commencez à brancher une fille en lui disant, bon, fais-moi voir tes lignes de la main et est-ce que si tu veux que je te fasse ton thème astral? Et ça, c'est impeccable, quoi. Beaucoup de filles aimaient ça.
La panoplie, quoi. Le rugbyman, lignes de la main.
Voilà, quelques petites balafres, etc. Mais aussi, ça m'intéressait beaucoup beaucoup parce que ça me semblait être une forme de proto-psychologie, au fond, c'est cette typologie des types humains, alors la balance qui est équilibrée, le gémeaux qui a un caractère double, enfin bref. Et du coup, j'ai passé ce mémoire de psychiatrie, qui était un peu atypique évidemment à l'époque, mais on pouvait encore faire des choses comme ça, un peu littéraires, un peu poétiques, un peu historiques, sur les rapports de l'astrologie et de la psychologie. Je crois que ça s'appelait, il faudrait que j'aille chercher dans ma bibliothèque, il est derrière moi, là je ne sais plus trop où, l'astrologie de point, une psychologie des origines, point d'interrogation.
Ouais. D'accord. Alors pendant 15 ans, vous avez exercé à Toulouse. C'était quoi votre vie pendant ces 15 années? C'était le rugby, lire les lignes de la main aux filles?
Oui, c'était une vie de jeune médecin, un peu superficiel. C'était un peu Dr. Jekyll et Mr. Hyde. C'est-à-dire, je crois que je suis un vrai soignant. J'aime beaucoup soigner, j'aime beaucoup faire du bien aux gens, j'aime le contact avec les patients, je suis très touché par les souffrances humaines. Et donc, dans la journée, j'étais un bon docteur, un brave interne, un bon médecin, un chouette psychiatre, je m'occupais plutôt bien, je crois, de mes patients. Mes patients m'aimaient beaucoup, je les aimais beaucoup, je finissais mes journées très tard. Là aussi, c'est un peu rétrospectif, ce diagnostic sur mon attitude, mais j'avais une sorte d'ivresse du soin. Il y a des moments, quand je sortais de la clinique, le soir, à 22h, les patients me faisaient revoir par la fenêtre de leur chambre, et j'étais le dernier médecin. Il y avait cette espèce de côté, quand certains patients des autres médecins avaient un problème, j'allais les voir pour dépanner mes collègues, pour dépanner les infirmières et les médecins. Enfin bref, il y avait ce côté-là qui me procurait beaucoup de bonheur, qui sans doute était très valorisant, évidemment, très très gratifiant, mais ce qui me rendait aussi heureux, quoi. Je ne le faisais pas que pour me faire bien voir, pour booster l'image que j'avais de moi-même. Et puis la nuit, le soir, c'était la vie d'étudiant, de patachon, de jeune médecin à Toulouse. Donc les bières avec les copains, les sorties dans les bars, courir après les filles. Je me souviens plusieurs fois être rentré chez moi à 7h du matin après avoir vraiment pas mal bu. Et donc vite me raser, prendre ma douche et aller à l'hôpital. Et arriver à l'hôpital un peu ivre, quoi. Et j'ai souvenir de plusieurs arrivées où j'étais à la bourre, donc je déboule au fond du couloir, toute l'équipe a commencé la visite de l'autre côté du couloir et me regarde arriver, et je marche avec ma blouse en me disant « marche droit, ne tangue pas, il faut pas qu'ils voient ». Et puis je me souviens que je parlais aux patients, aux autres médecins, aux infirmières, en essayant de tourner un peu la bouche sur le côté pour qu'ils sentent pas que j'avais vu. Enfin voilà, bon, c'est une histoire folklorique, mais pour vous montrer à quel point j'essayais de mener ces deux vies de front. Ça marchait parce que j'avais beaucoup d'énergie, que les deux vies me plaisaient beaucoup, étaient très intéressantes, me réjouissaient.
Mmh. Ouais. C'est quoi la rupture?
La rupture, ça a été la mort de mon meilleur ami en 87, puisque j'avais à l'époque un meilleur ami qui s'appelait Michel, qui était interne comme moi, avec qui on partageait tout. On habitait à côté l'un de l'autre, on faisait de la moto ensemble, on courait les filles ensemble, on échangeait nos lectures, on échangeait nos idées, on avait une complicité immense. Et donc, une année, on faisait un voyage en moto, on devait aller au Maroc. Et il a eu un accident mortel au sud du Portugal. Il était roulé devant moi, et un pauvre paysan portugais, là, qu'il était en train de doubler. Le type était en mobylette avec sa petite carriole derrière lui, avec ses instruments, là, la pelle et tout ça. Et il n'a pas tendu le bras pour tourner, donc il a coupé la route à mon ami, qui a fait un vol plané, qui s'est... Quand vous êtes motard, si vous glissez, tout va bien. Et si vous heurtez un obstacle, c'est très, très dangereux. Il a heurté un arbre. Et... Donc je suis vite descendu de moto et il est mort dans mes bras. Donc vous imaginez que ça a été un très grand choc. Et c'est difficile à dire. J'ai jamais voulu me pencher. J'en parle, hein. J'en ai parlé plusieurs fois de ces histoires-là. mais c'est comme si je ne voulais pas y revenir délibérément, en tout cas. Ce qu'il vous faut comprendre, c'est que ça a été un deuil terrible. D'abord, ça a été très douloureux. J'étais seul là-bas, il m'a fallu rapatrier son corps, sa moto, ses affaires, revenir. Je suis revenu en moto tout seul à Toulouse. Je me souviens de l'instant où je suis rentré chez ses parents, il y avait toute sa famille. Bon, c'était vraiment des moments très très douloureux. Après son enterrement, je suis allé me réfugier dans un monastère pendant 15 jours, tellement j'étais incapable d'affronter les questions, de supporter les messages de réconfort ou d'affection. Je voulais qu'on me foute la paix. Donc ça a été très important pour moi d'aller me mettre à l'abri. Et quand je suis ressorti, c'est comme toutes les personnes endeuillées. D'abord, sa présence me manquait terriblement, c'est-à-dire que tous les coins de Toulouse correspondaient à des endroits où on avait dragué des filles, où on avait fait la fête, donc son absence me rattrapait à chaque carrefour. Et puis je me sentais seul. J'avais d'autres amis, évidemment, des très bons amis, j'avais des copines, mais ouais, ça a été une l'amputation de la moitié de moi-même. J'étais en souffrance, alors j'avais deux options. Soit je tentais de reconstruire le même genre de vie en gardant cette cicatrice, soit je partais. Et finalement, le hasard, mais c'est tout sauf un hasard évidemment, a fait que presque un an après sa mort, j'ai rencontré celle qui est devenue ma femme. Et ce dont je suis sûr, c'est que si je l'avais rencontrée avant cette période, eh bien, elle n'aurait été qu'une conquête de plus. Mais là, j'étais très vulnérable et surtout, j'avais besoin de quelqu'un. Donc, bon, je ne sais pas dévaloriser ses qualités, elles sont immenses et ça a été très important pour moi de la rencontrer. Mais ce que je veux dire, c'est que si je l'avais rencontré à un autre moment, j'aurais gaspillé cette rencontre. Je n'aurais pas été capable de voir que je pouvais faire quelque chose, construire une vie heureuse avec elle.
Merci Christophe André, c'était de cette vie heureuse dont nous allons parler demain pour la suite de ces Awa Nu.
Merci à vous.
À demain.
Demain, la suite de cette rencontre de Xavier Delaporte avec Christophe André. À voix nue, attaché d'émission Claire Poinsignon, prise de son Yann Fressy, réalisation Assia Khalid, coordination Belindola. Cette émission s'écoute en ligne et ce podcast sur franceculture.fr.